George Sand, Mopra, chapitre 6. J'avais 15 ans quand mon grand-père mourut. Sa mort ne causa point de douleur, mais une véritable consternation à la roche Mopra. Il était l'âme de tous les vices qui régnaient, et il est certain qu'il y avait en lui quelque chose de plus cruel et de moins vil que dans ses fils. Après lui, l'espèce de gloire que son audace nous avait acquise s'éclipsa. Ses enfants, jusque-là bien disciplinés, devinrent de plus en plus ivrognes et débauchés. D'ailleurs, les expéditions furent chaque jour plus périlleuses. Excepté le petit nombre de féaux que nous traitions bien et qui nous étaient tous dévoués, nous étions de plus en plus isolés et sans ressources. Le pays d'alentour avait été abandonné à la suite de nos violences. La frayeur que nous inspirions agrandissait chaque jour le désert autour de nous. Il fallait aller loin et se hasarder sur les confins de la plaine. Là, nous n'avions pas le dessus, et mon oncle Laurent, le plus hardi de tous, fut grièvement blessé dans une escarmouche. Il fallut chercher d'autres ressources. Jean les suggéra. Ce fut de se glisser dans les foires sous divers déguisements et d'y commettre des vols habiles. De brigands, nous devînmes filous, et notre nom détesté s'avilit de plus en plus. Nous établîmes des acquaintances avec tout ce que la province recelait de gens tarés, et par un échange de services frauduleux, nous échappâmes encore une fois à la misère. Je dis « nous », car je commençais à faire partie de cette bande de coupe-jarrets quand mon grand-père mourut. Il avait cédé à mes prières et m'avait associé à quelques-unes des dernières courses qu'il tenta. Je ne vous ferai point d'excuses, mais vous voyez devant vous un homme qui a fait le métier de bandit. C'est un souvenir qui ne me laisse nul remords, pas plus qu'un soldat d'avoir fait campagne sous les ordres de son général. Je croyais encore vivre au Moyen-Âge. La force et la sagesse des lois établies, c'était pour moi des paroles dépourvues de sens. Je me sentais brave et vigoureux, je me battais. Il est vrai que les résultats de nos victoires me faisaient souvent rougir, mais n'en profitant pas, je m'en lavais les mains, et je me souviens avec plaisir d'avoir aidé plus d'une victime terrassée à se relever et à s'enfuir. Cette existence m'étourdissait par son activité, ses dangers et ses fatigues. Elle m'arrachait aux douloureuses réflexions qui eussent pu naître en moi. En outre, elle me soustrayait à la tyrannie immédiate de Jean. Mais quand mon grand-père fut mort et notre bande dégradée par un autre genre d'exploit, je retombai sous cette odieuse domination. Je n'étais nullement propre au mensonge et à la fraude. Je montrais non seulement de l'aversion, mais encore de l'incapacité pour cette industrie nouvelle. On me regarda comme un membre inutile, et les mauvais procédés recommencèrent. On m'eût chassé si l'on eût craint que, me réconciliant avec la société, je ne devinsse un ennemi dangereux. Dans cette alternative de me nourrir ou d'avoir à me redouter, il fut souvent délibéré, je l'ai su depuis, de me chercher querelle et de me forcer à une rixe dans laquelle on se déferait de moi. C'était la vie de Jean. Mais Antoine, celui qui avait perdu le moins de l'énergie et de l'espèce d'équité domestique de Tristan, opina et prouva que j'étais plus précieux que nuisible. J'étais un bon soldat. On pouvait avoir besoin encore de bras dans l'occasion. Je pouvais aussi me former à l'escroquerie. J'étais bien jeune et bien ignorant. Mais si Jean voulait me prendre par la douceur, rendre mon sort moins malheureux et surtout m'éclairer sur ma véritable situation, en m'apprenant que j'étais perdu pour la société et que je ne pouvais y reparaître sans être pendu aussitôt, peut-être mon obstination et ma fierté plieraient-elles devant le bien-être d'une part et la nécessité de l'autre. Il fallait au moins le tenter avant de se débarrasser de moi. Car, disait Antoine pour conclure son homélie, nous étions d'Imopra l'année dernière. Notre père est mort, et si nous tuons Bernard, nous ne serons plus que 8. Cet argument l'emporta. On me tira de l'espèce de cachot où je languissais depuis plusieurs mois, on me donna des habits neufs, on changea mon vieux fusil pour une belle carabine que j'avais toujours désirée, on me fit l'exposé de ma situation dans le monde, on me versa du meilleur vin à mes repas. Je promis de réfléchir, et en attendant, je m'abritais un peu plus dans l'inaction et dans l'ivrognerie que je n'avais fait dans le brigandage. Cependant, ma captivité me laissa de si tristes impressions que je fis le serment, à part moi, de m'exposer à tout ce qui pourrait m'advenir sur les terres du roi de France plutôt que de supporter le retour de ses mauvais traitements. Un méchant point d'honneur me retenait seul à la roche Mopra. Il était évident que l'orage s'amassait sur nos têtes. Les paysans étaient mécontents, malgré tout ce que nous faisions pour nous les attacher. Des doctrines d'indépendance s'insinuaient sourdement parmi eux. Nos plus fidèles serviteurs se lassaient d'avoir le pain et les vivres en abondance. Ils demandaient de l'argent, et nous n'en avions pas. Plusieurs sommations nous avaient été faites de payer à l'État les impôts du fisc. Et nos créanciers, se joignant aux gens du roi et aux paysans révoltés, tout nous menaçait d'une catastrophe semblable à celle dont le seigneur de Pleumartin venait d'être la victime dans le pays. Mes oncles avaient longtemps projeté de s'adjoindre aux rapines et à la résistance de ce hobereau. Mais au moment où Pleumartin, près de tomber au pouvoir de ses ennemis, nous avait donné sa parole de nous accueillir comme amis et alliés si nous marchions à son secours, nous avions appris sa défaite et sa fin tragique. Nous étions donc à toute heure sur nos gardes. Il fallait quitter le pays ou traverser une crise décisive. Les uns conseillaient le premier parti. Les autres s'obstinaient à suivre le conseil du père mourant et à s'enterrer sous les ruines du donjon. Ils traitaient de lâcheté et de couardise toute idée de fuite ou de transaction. La crainte d'encourir un pareil reproche, et peut-être un peu l'amour instinctif du danger, me retenait donc encore. Mais mon aversion pour cette existence odieuse sommeillait en moi, toujours prête à éclater violemment. Un soir que nous avions largement soupé, nous restâmes à table, continuant à boire et à converser. Dieu sait dans quels termes et sur quel sujet. Il faisait un temps affreux. L'eau ruisselait sur le pavé de la salle par les fenêtres disjointes. L'orage ébranlait les vieux murs. Le vent de la nuit sifflait à travers les crevasses de la voûte et faisait ondoyer la flamme de nos torches de résine. On m'avait beaucoup raillé pendant le repas de ce qu'on appelait ma vertu. On avait traité ma sauvagerie envers les femmes de continence, et c'était surtout à ce propos qu'on me poussait à mal par la mauvaise honte. Comme, tout en me défendant de ces moqueries grossières et en ripostant sur le même ton, j'avais bu énormément, ma farouche imagination s'était enflammée. Et je me vantais d'être plus hardi et mieux venu auprès de la première femme qu'on amènerait à la Roche-Maupras qu'aucun de mes oncles. Le défi fut accepté avec de grands éclats de rire. Les roulements de la foudre répondirent à cette gaieté infernale. Tout à coup, le cor sonna à la herse. Tout rentra dans le silence. C'était la fanfare dont les Maupras se servaient entre eux pour s'appeler et se reconnaître. C'était mon oncle Laurent qui avait été absent tous les jours et qui demandait à rentrer. Nous avions tant de sujets de méfiance que nous étions nous-mêmes porte-clés et guichetiers de notre forteresse. Jean se leva en agitant les clés, mais il resta immobile aussitôt pour écouter le cor, qui annonçait par une seconde fanfare qu'il amenait une prise et qu'il fallait aller au-devant de lui. En un clin d'œil, tous les Maupras furent à la herse avec des flambeaux, excepté moi, dont l'indifférence était profonde et les jambes sérieusement avinées. « Si c'est une femme, s'écria Antoine en sortant, « je jure sur l'âme de mon père qu'elle te sera adjugée, vaillant jeune homme. Et nous verrons si ton audace répond à tes prétentions. » Je restai les coudes sur la table, plongé dans un malaise stupide. Lorsque la porte se rouvrit, je vis entrer une femme d'une démarche assurée et revêtue d'un costume étrange. Il me fallut un effort pour ne pas tomber dans une sorte de divagation et pour comprendre ce que l'un des Maupras vint me dire à l'oreille. Au milieu d'une battue au loup, à laquelle plusieurs seigneurs des environs, avec leurs femmes, avaient voulu prendre part, le cheval de cette jeune personne s'était effrayé et l'avait emporté loin de la chasse. Lorsqu'il s'était calmé, après une pointe de près d'une lieue, elle avait voulu retourner en arrière. Mais ne connaissant pas le pays de la Varenne, où tous les sites se ressemblent, elle s'était de plus en plus écartée. L'orage et la nuit avaient mis le comble à son embarras. Laurent, l'ayant rencontré, lui avait offert de la conduire au château de Rochemaure, qui était en effet à plus de 6 lieues de là, mais qui disait très voisin, et dont il feignit d'être le garde-chasse. Cette dame avait accepté son offre. Sans connaître la dame de Rochemaure, elle était un peu sa parente, et elle se flattait d'être bien accueillie. Elle n'avait jamais rencontré la figure d'aucun Maupras, et ne songeait guère être si près de leur repère. Elle avait donc suivi son guide sans défiance, et n'ayant vu de sa vie la Roche-Maupras ni de près ni de loin, elle fut introduite dans la salle de nos orgies sans avoir le moindre soupçon du piège où elle était tombée. Quand je frottais mes yeux appesantis et regardais cette femme si jeune et si belle, avec un air de calme, de franchise et d'honnêteté que je n'avais jamais trouvé sur le front d'aucune autre, toutes celles qui avaient passé la herse de notre manoir étant d'insolentes prostituées ou des victimes stupides, je crus faire un rêve. J'avais vu des fées figurer dans mes légendes de chevalerie. Je crus presque que Morgane ou Urgande venait chez nous pour nous faire justice. Et j'eus envie un instant de me jeter à genoux et de protester contre l'arrêt qui me confondut avec mes oncles. Antoine, à qui Laurent avait rapidement donné le mot, s'approcha d'elle avec autant de politesse qu'il était capable d'en avoir, et la pria d'excuser son costume de chasse et celui de ses amis. Ils étaient tous neveux ou cousins de la dame de Rochemaure, et ils attendaient, pour se mettre à table, que cette dame, qui était fort dévote, fut sortie de la chapelle où elle était en conférence pieuse avec son aumônier. L'air de candeur et de confiance avec lequel l'inconnu écouta ce mensonge ridicule me serra le cœur. Mais je ne me rendis pas compte de ce que j'éprouvais. « Je ne veux pas, dit-elle à mon oncle Jean, qui faisait l'assidu d'un air de satire auprès d'elle, déranger cette dame. Je suis trop inquiète de l'inquiétude que je cause moi-même à mon père et à mes amis dans ce moment pour vouloir m'arrêter ici. Dites-lui que je la supplie de me prêter un cheval frais et un guide, afin que je retourne vers le lieu où je présume qu'ils peuvent avoir été m'attendre. » « Madame, répondit Jean avec assurance, il est impossible que vous vous remettiez en route par le temps qu'il fait. D'ailleurs, cela ne servirait qu'à retarder le moment de rejoindre ceux qui vous cherchent. Dix de nos gens bien montés et armés de torches partent à l'instant par 10 routes différentes et vont parcourir la Varenne sur tous les points. Il est donc impossible que dans 2 heures au plus, vos parents n'aient pas de nouvelles et que bientôt vous ne les voyez arriver ici où ils seront hébergés le mieux possible. Tenez-vous donc en repos et acceptez ces cordiaux pour vous remettre, car vous êtes mouillé et accablé de fatigue. Sans l'inquiétude que j'éprouve, je serais affamée, répondit-elle en souriant. Je vais essayer de manger quelque chose. Mais ne faites rien d'extraordinaire pour moi. Vous avez déjà 1000 fois trop de bonté. Elle s'approcha de la table où j'étais restée accoudée et prit un fruit tout près de moi sans m'apercevoir. Je me retournai et la regardai effrontément d'un air abruti. Elle supporta mon regard avec arrogance. Voilà du moins ce qu'il me sembla. J'ai su depuis qu'elle ne me voyait seulement pas, car tout en faisant un effort sur elle-même pour paraître calme et répondre avec confiance à l'hospitalité qu'on lui offrait, elle était fort troublée de la présence inattendue de tant d'hommes étranges, de mauvaise mine et grossièrement vêtus. Pourtant, nul soupçon ne lui venait. J'entendais un des mots dire près de moi à Jean. « Bon, tout va bien. Elle donne dans le panneau. Faisons-la boire, elle causera. »« Un instant, » répondit Jean. « Surveillez-la, l'affaire est sérieuse. » Il y a mieux à faire ici qu'à se divertir. Je vais tenir conseil. On vous appellera pour dire votre avis. Mais ayez l'œil un peu sur Bernard. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-je brusquement en me retournant vers lui. Est-ce que cette fille ne m'appartient pas? N'a-t-on pas juré sur l'âme de mon grand-père? Ah, c'est parbleu vrai, dit Antoine en s'approchant de notre groupe, tandis que les autres Maupras entouraient la dame. Écoute, Bernard, je tiendrai ma parole à une condition. Laquelle? C'est bien simple. D'ici à 10 minutes, tu ne diras pas à cette donzelle qu'elle n'est pas chez la vieille Rochemaure. Pour qui me prenez-vous? Répondis-je en enfonçant mon chapeau sur mes yeux. Croyez-vous que je sois une bête? Attendez, voulez-vous que j'aille prendre la robe de ma grand-mère, qui est là-haut, et que je me fasse passer pour la dévote de Rochemaure? Bonne idée, dit Laurent. Mais avant tout, j'ai à vous parler, reprit Jean. Et il les entraîna dehors, après avoir fait un signe aux autres. Au moment où ils sortaient tous, je crus voir que Jean voulait engager Antoine à me surveiller. Mais Antoine, avec une insistance que je ne compris pas, s'obstina à les suivre. Je restai seule avec l'inconnu. Je demeurai un instant étourdi, bouleversé et plus embarrassé que satisfait du tête-à-tête. Puis, en cherchant à me rendre compte de ce qui se passait de mystérieux autour de moi, je parvins à m'imaginer, à travers les fumées du vin, quelque chose d'assez vraisemblable, quoique pourtant ce fût une erreur complète. Je crus expliquer tout ce que je venais de voir et d'entendre en supposant, primo, que cette dame si tranquille et si parée était une de ces filles de Bohême que j'avais vues quelquefois dans l'histoire. Deuxio, que Laurent, l'ayant rencontrée par les champs, l'avait amenée pour divertir la compagnie. Tertio, qu'on lui avait fait confidence de mon état d'ivresse fanfaronne et qu'on l'amenait pour mettre ma galanterie à l'épreuve, tandis qu'on me regarderait par le trou de la serrure. Mon premier mouvement, dès que cette pensée se fut emparée de moi, fut de me lever et d'aller droit à la porte que je fermai à double tour et dont je tirai les verrous. Puis je revins vers la dame, déterminée que j'étais à ne pas lui donner lieu de railler ma timidité. Elle était assise sous le manteau de la cheminée, et comme elle était occupée à sécher ses habits mouillés et penchée vers le foyer, elle ne s'était pas rendue compte de ce que je faisais. Mais l'expression étrange de mon visage la fit tressaillir lorsque je m'approchai d'elle. J'étais déterminée à l'embrasser pour commencer. Mais je ne sais quel prodige, dès qu'elle levait ses yeux sur moi, cette familiarité me devint impossible. Je ne me sentis que le courage de lui dire. « Ma foi, mademoiselle, vous êtes charmante, Et vous me plaisez aussi vrai que je m'appelle Bernard Mauprat.
Bernard Mauprat ? S'écria-t-elle en se levant. Vous êtes Bernard Mauprat, vous ?
En ce cas, changez de langage et sachez à qui vous parlez. Ne vous l'a-t-on pas dit ?
On ne me l'a pas dit, mais je le devine, répondis-je en ricanant, et en m'efforçant de lutter contre le respect que m'inspirait sa pâleur subite et son attitude impérieuse.
Si vous le devinez, dit-elle, comment est-il possible que vous me parliez comme vous faites ?
Mais on m'avait bien dit que vous étiez mal élevé, et pourtant j'avais toujours désiré vous rencontrer.
En vérité, dis-je en ricanant toujours, vous, princesse de grande route, qui avez connu tant de gens en votre vie, laissez mes lèvres rencontrer les vôtres, s'il vous plaît, ma belle, et vous saurez si je suis aussi bien élevée que messieurs mes oncles que vous écoutiez si bien tout à l'heure.
Vos oncles ? S'écria-t-elle en saisissant brusquement sa chaise et en la plaçant entre nous comme par un instinct de défense.
« Oh, mon Dieu ! Mon Dieu, mais ne suis-je pas chez madame de Rochemort ?»«
Le nom commence toujours de même, et nous sommes aussi bonne roche que qui que ce soit. »«
La roche Mauprat » murmura-t-elle en frissonnant de la tête aux pieds, comme une biche qui entend hurler les loups. Et ses lèvres devinrent toutes blanches. L'angoisse passa dans tous ses traits. Par une involontaire sympathie, je frémis moi-même, et je faillis changer tout à coup de manière et de langage.
Qu'est-ce que cela a donc de surprenant pour elle, me disais-je? N'est-ce pas une comédie qu'elle joue? Et si les Mauprat ne sont pas là derrière quelques boiseries à nous écouter, ne leur racontera-t-elle pas, mot pour mot, tout ce qui se sera passé?
Cependant, elle tremble comme une feuille de peuplier.
Mais si c'est une comédienne?
J'en ai vu une qui faisait Geneviève de Brabant et qui pleurait à s'y méprendre.
J'étais dans une grande perplexité, et je promenais des yeux hagards, tantôt sur elle, tantôt sur les portes que je croyais toujours près de s'ouvrir toutes grandes aux éclats de rire de mes oncles. Cette femme était belle comme le jour. Je ne crois pas que jamais il ait existé une femme aussi jolie que celle-là. Ce n'est pas moi seulement qui l'atteste. Elle a laissé une réputation de beauté qui n'est pas encore oubliée dans le pays. Elle était d'une taille assez élevée, svelte, et remarquable par l'aisance de ses mouvements. Elle était blanche, avec des yeux noirs et des cheveux d'ébène. Son regard et son sourire avaient une expression de bonté et de finesse dont le mélange était incompréhensible. Il semblait que le ciel lui eût donné deux âmes, une toute d'intelligence, une toute de sentiment. Elle était naturellement gaie et brave. C'était un ange que les chagrins de l'humanité n'avaient pas encore osé toucher. Rien ne l'avait fait souffrir, rien ne lui avait appris la méfiance et l'effroi. C'était donc la première souffrance de sa vie. Et c'était moi, brute, qui la lui inspirais. Je la prenais pour une bohémienne, et c'était un ange de pureté. C'était ma jeune tante à la mode de Bretagne, Edmée de Mauprat, fille de M. Hubert, mon grand-oncle, à la mode de Bretagne aussi, qu'on appelait le chevalier, et qui s'était fait relever de l'ordre de Malte pour se marier dans un âge déjà mûr, car, ma tante et moi, nous étions du même âge. Nous avions 17 ans tous deux, à quelques mois de différence. Et ce fut là notre première entrevue. Celle que j'aurais dû protéger au péril de ma vie, envers et contre tous, était là, devant moi, palpitante et consternée comme une victime devant le bourreau. Elle fit un grand effort, et s'approchant de moi, qui marchais avec préoccupation dans la salle, elle se nomma et ajouta. « Il est impossible que vous soyez un infâme comme tous ces brigands que je viens de voir et dont je sais la vie infernale. Vous êtes jeune, votre mère était bonne et sage. Mon père voulait vous élever et vous adopter. Encore aujourd'hui, il regrette de ne pouvoir vous tirer de l'abîme où vous êtes plongé. N'avez-vous pas reçu plusieurs messages de sa part ? Bernard, vous êtes mon proche parent. Songez au lien du sang. Pourquoi voulez-vous m'insulter ? Veut-on m'assassiner ici ou me donner la torture ? Pourquoi m'a-t-on trompé en me disant que j'étais à Rochemort ? Pourquoi s'est-on retiré d'un air de mystère ? Que prépare-t-on ? Que se passe-t-il ? La parole expira sur ses lèvres. Un coup de fusil venait de se faire entendre dehors. Une décharge de couleuvrine y répondit, et la trompe d'alarme ébranla de son lugubre les tristes murailles du donjon. Mademoiselle de Mauprat retomba sur sa chaise. Je restai immobile, ne sachant si c'était une nouvelle scène de comédie, imaginée pour se divertir de moi, et décidée à ne point me mettre en peine de cette alarme jusqu'à ce que j'eusse la preuve certaine qu'elle n'était pas simulée. « Allons, lui dis-je en me rapprochant d'elle. Convenez que tout ceci est une plaisanterie. Vous n'êtes pas mademoiselle de Mauprat, Et vous voulez savoir si je suis un apprenti capable de faire l'amour?
J'en jure par le Christ, répondit-elle en prenant mes mains dans ses mains froides comme la mort.
Je suis aimée, votre parente, votre prisonnière, votre amie, car je me suis toujours intéressée à vous. J'ai toujours supplié mon père de ne pas vous abandonner.
Mais écoutez, Bernard, on se bat à coups de fusil. C'est mon père qui vient me chercher sans doute, et on va le tuer.
Ah ! S'écria-t-elle en tombant à genoux devant moi. Allez empêcher cela, Bernard, mon enfant. Dites à vos oncles de respecter mon père, le meilleur des hommes, si vous saviez. Dites-leur que s'ils nous haïssent, s'ils veulent verser du sang, eh bien, qu'ils me tuent, qu'ils m'arrachent le cœur, mais qu'ils respectent mon père.
On m'appela du dehors d'une voix véhémente.
Où est ce poltron ? Où est cet enfant de malheur ? Disait mon oncle Laurent.
On secoua la porte. Je l'avais si bien fermée qu'elle résista à des secousses furieuses.
« Ce misérable lâche s'amuse à faire l'amour pendant qu'on nous égorge. Bernard, la maréchaussée nous attaque. Votre oncle Louis vient d'être tué. Venez, pour Dieu, venez, Bernard !»«
Que le diable vous emporte tous, me criai-je, et soyez tués vous-même, si je croise un mot de tout cela. Je ne suis pas si sot que vous pensez. »«
Il n'y a de lâche ici que ceux qui mentent. Moi, j'ai juré que j'aurai la femme, et je ne la rendrai que quand il me plaira. »
« Allez au diable !» répondit Laurent, « vous faites semblant !»
Les décharges de mousqueterie redoublèrent. Des cris affreux se firent entendre. Laurent quitta la porte et se mit à courir vers le bruit. Son empressement marquait tant de vérité que je n'y pus résister. L'idée qu'on m'accuserait de lâcheté l'emporta. Je m'avançai vers la porte.
« Oh Bernard ! Oh monsieur de Mauprat !» s'écria Edmé en se traînant après moi. « Laissez-moi aller avec vous !» Je me jetterai aux pieds de vos oncles. Je ferai cesser ce combat. Je leur céderai tout ce que je possède, ma vie s'ils la veulent, pour que celle de mon père soit sauvée.
Attendez, lui dis-je en me retournant vers elle. Je ne peux pas savoir si on ne se moque pas de moi. Je crois que mes oncles sont là derrière la porte et que, pendant que nos valets de chiens tiraillent dans la cour, on tient une couverture pour me berner. Vous êtes ma cousine, ou vous êtes une... Vous allez me faire un serment, et je vous en ferai un à mon tour. Si vous êtes une princesse errante, et que vaincue par vos grimaces, je sorte de cette chambre, vous allez jurer d'être ma maîtresse et de ne souffrir personne auprès de vous avant que j'aie usé de mes droits. Ou bien moi, je vous jure que vous serez corrigée comme j'ai corrigé ce matin Flore, ma chienne mouchetée. Si vous êtes ennemie et que je vous jure de me mettre entre votre père et ceux qui voudraient le tuer, que me promettez-vous? Que me jurez-vous?
Si vous sauviez mon père, s'écria-t-elle, je vous jure que je vous épouserai.
« Oui, da, lui dit Jean hardi par son enthousiasme, dont je ne comprenais pas la sublimité. « Donnez-moi donc un gage, afin qu'en tout cas, je ne sorte pas d'ici comme un sot. »
Elle se laissa embrasser sans faire résistance. Ses joues s'étaient glacées. Elle s'attachait machinalement à mes pas pour sortir. Je fus obligée de la repousser. Je le fis sans rudesse, mais elle tomba comme évanouie. Je commençais à comprendre la réalité de ma situation, car il n'y avait personne dans le corridor, et les bruits du dehors devenaient de plus en plus alarmants. J'allais courir vers mes armes, lorsqu'un dernier mouvement de méfiance, ou peut-être un autre sentiment, me fit revenir sur mes pas et fermer à double tour la porte de la salle où je laissais ennemi. Je mis la clé dans ma ceinture, et j'allai au rempart, armé de mon fusil, que je chargeai en courant. C'était tout simplement une attaque de la maréchaussée. Il n'y avait là rien de commun avec Mademoiselle de Mauprat. Nos créanciers avaient obtenu prise de corps contre nous. Les gens de loi, battus et maltraités, avaient requis de l'avocat du roi au présidial de Bourges un mandat d'amener, que la force armée exécutait de son mieux, espérant s'emparer de nous avec facilité au moyen d'une surprise nocturne. Mais nous étions en meilleur état de défense qu'ils ne pensaient. Nos gens étaient braves et bien armés, et puis nous nous battions pour notre existence tout entière. Nous avions le courage du désespoir, et c'était un avantage immense. Notre troupe montait à 24 personnes, la leur à plus de 50 militaires. Une vingtaine de paysans lançaient des pierres sur les côtés, mais ils faisaient plus de mal à leurs alliés qu'à nous. Le combat fut acharné pendant une demi-heure, puis notre résistance effraya tellement l'ennemi qu'il se replia et suspendit ses hostilités. Mais il revint bientôt à la charge et fut de nouveau repoussé avec perte. Les hostilités furent encore suspendues. On nous somma de nous rendre pour la troisième fois en nous promettant la vie sauve. Antoine Mauprat leur répondit par une moquerie obscène. Ils restèrent indécis
mais ne se retirèrent pas. Je m'étais battu bravement. J'avais fait ce que j'appelais mon devoir. La trêve se prolongeait. Nous ne pouvions plus juger de la distance de l'ennemi, et nous n'osions risquer une décharge dans l'obscurité, car nos munitions de guerre étaient précieuses. Tous mes oncles étaient cloués au rempart, dans l'incertitude d'une nouvelle attaque. L'oncle Louis était grièvement blessé. Ma prisonnière me revint en mémoire. J'avais, au commencement du combat, entendu dire à Jean Mauprat qu'il fallait, en cas de défaite, l'offrir à condition qu'on lèverait le siège ou la pendre aux yeux de l'ennemi. Je ne pouvais plus douter de la vérité de ce qu'elle m'avait dit. Quand la victoire parut se déclarer pour nous, on oublia la captive. Seulement le rusé Jean se détacha de sa chère couleuvrine, qu'il pointait avec tant d'amour, et se glissa comme un chat dans les ténèbres. Un mouvement de jalousie incroyable s'empara de moi. Je jetai mon fusil, et je m'élançai sur ses traces, le couteau dans la main et résolu, je crois, à le poignarder s'il touchait à ce que je regardais comme ma capture. Je le vis approcher de la porte, essayer de l'ouvrir, regarder avec attention par le trou de la serrure pour s'assurer que sa proie ne lui avait pas échappé. Les coups de fusil recommencèrent. Il tourna sur ses talons inégaux avec l'agilité surprenante dont il était doué et courut au rempart. Pour moi, caché dans l'ombre, je le laissai passer et ne le suivis pas. Un autre instinct que celui du carnage venait de s'emparer de moi. Un éclair de jalousie avait enflammé mes sens. La fumée de la poudre, la vue du sang, le bruit, le danger et plusieurs rasades d'eau-de-vie avalées à la ronde pour entretenir l'activité m'avaient singulièrement échauffé la tête. Je pris la clé dans ma ceinture, j'ouvris brusquement la porte, et quand je reparus devant la captive, je n'étais plus le novice méfiant et grossier qu'elle avait réussi à ébranler. J'étais le brigand farouche de la Roche-Mauprat, 100 fois plus dangereux cette fois que la première. Elle s'élança vers moi avec impétuosité. J'ouvris mes bras pour la saisir, mais au lieu de s'en effrayer, elle s'y jeta en criant. « Eh bien, mon père ?»« Ton père, lui dis-je en l'embrassant, n'est pas là. Il n'est pas plus question de lui que de toi sur la brèche à l'heure qu'il est. Nous avons descendu une douzaine de gendarmes, et voilà tout. La victoire se déclare pour nous comme de coutume. Ainsi, ne t'inquiète plus de ton père. Moi, je ne m'inquiète plus des gens du roi. Vivons en paix et fais ton l'amour. » En parlant ainsi, je portais à mes lèvres un broc de vin qui restait sur la table. Mais elle me l'ôta des mains d'un air d'autorité qui m'enhardit. « Ne buvez plus, me dit-elle. Songez à ce que vous dites. Est-ce vrai ce que vous avez dit? En répondez-vous sur l'honneur, sur l'âme de votre mère? Tout cela est vrai, je le jure, sur votre belle bouche toute rose, lui répondis-je en essayant de l'embrasser encore. Mais elle recula avec terreur. « Oh mon Dieu, dit-elle, il est ivre. Bernard, Bernard, souvenez-vous de ce que vous avez promis, gardez votre parole. Vous savez bien à présent que je suis votre parente, votre sœur. Vous êtes ma maîtresse ou ma femme, lui répondis-je en la poursuivant toujours. Vous êtes un misérable, reprit-elle en me repoussant de sa cravache. Qu'avez-vous fait pour que je vous sois quelque chose? Avez-vous secouru mon père? J'ai juré de le secourir, et je l'aurais fait s'il eût été là. C'est donc comme si je l'avais fait. Savez-vous que si je l'avais fait et que j'eusse échoué, il n'y aurait pas eu à la Roche-Mauprat de supplice assez cruel et assez lent pour me punir à petit feu de cette trahison? J'ai juré assez haut, on peut l'avoir entendu. Ma foi, je ne m'en soucie guère, et je ne viens pas à vivre de jour de plus ou de moins, mais je tiens à vos faveurs, ma belle, et à n'être pas un chevalier langoureux dont on se moque. Allons, aimez-moi tout de suite, ou ma foi, je m'en retourne là-bas. Et si je suis tué, tant pis pour vous. Vous n'aurez plus de chevalier, et vous aurez encore 7 Mauprats à tenir en bride. Je crains que vous n'ayez pas les mains assez fortes pour cela, ma jolie petite linotte. » Ces paroles, que je débitais au hasard, et sans y attacher d'autre importance que de la distraire pour m'emparer de ses mains ou de sa taille, firent une vive impression sur elle. Elle s'enfuit à l'autre bout de la salle et s'efforça d'ouvrir la fenêtre. Mais ses petites mains ne purent seulement en ébranler le châssis de plomb aux ferrures rouillées. Sa tentative me fit rire. Elle joignit les mains avec anxiété et resta immobile. Puis, tout à coup, l'expression de son visage changea. Elle sembla prendre son parti et vint à moi l'air riant et la main ouverte. Elle était si belle ainsi qu'un nuage passa devant mes yeux et pendant un instant je ne la vis plus. Passez-moi une puérilité. Il faut que je vous dise comment elle était habillée. Elle ne remit jamais ce costume depuis cette nuit étrange, et pourtant je me le rappelle minutieusement. Il y a longtemps de cela. Eh bien, je vivrai encore autant que j'ai vécu, que je n'oublierai pas un seul détail, tant j'en fus frappée au milieu du tumulte qui se faisait au-dedans et au-dehors de moi, au milieu des coups de fusil qui battaient le rempart, des éclairs qui sillonnaient le ciel et des palpitations violentes qui précipitaient mon sang de mon cœur à mon cerveau et de ma tête à ma poitrine. Oh, qu'elle était belle! Il me semble que son spectre passe encore devant mes yeux. Je crois la voir, vous dis-je, avec son costume d'Amazone qu'on portait dans ce temps-là. Ce costume consistait en une jupe de drap très ample. Le corps serré dans un gilet de satin gris de perles boutonnées et une écharpe rouge autour de la taille. En dessus, on portait la veste de chasse galonnée, courte et ouverte par devant. Un chapeau de feutre gris à grands bords, relevé sur le front et ombragé d'une demi-douzaine de plumes rouges, surmontait des cheveux sans poudre, retroussés autour du visage et tombant par derrière en deux longues tresses comme ceux des bernoises. Ceux d'Edmé étaient si longs qu'ils descendaient presque à terre. Cette parure fantastique pour moi, cette fleur de jeunesse et ce bon accueil qu'elle semblait faire à mes prétentions, c'en était bien assez pour me rendre fou d'amour et de joie. Je ne comprenais rien de plus agréable qu'une belle femme qui se donnait sans paroles grossières et sans larmes de honte. Mon premier mouvement fut de la saisir dans mes bras. Mais comme vaincue par ce besoin irrésistible d'adoration qui caractérise le premier amour, même chez les êtres les plus grossiers, je tombai à genoux et je l'ai pressée contre ma poitrine. C'était pourtant, dans cette hypothèse, à une grande dévergondée que s'adressait cet hommage. Je n'en étais pas moins près de m'évanouir. Elle prit ma tête dans ses deux mains en s'écriant. « Ah, je le voyais bien, je le savais bien que vous, vous n'étiez pas un de ces réprouvés. Oh, vous allez me sauver, Dieu merci. Soyez béni, ô Dieu. Et vous, mon cher enfant, dites de quel côté ? Vite, fuyons. Faut-il sauter par la fenêtre ? Oh, je n'ai pas peur, mon cher monsieur. Allons !» Je crus sortir d'un rêve, et j'avoue que cela me fut horriblement désagréable. « Qu'est-ce à dire ? » lui répondis-je en me relevant. « Vous vous jouez de moi ? Ne savez-vous pas où vous êtes ? Et croyez-vous que je sois un enfant ?»« Je sais que je suis à la Roche-Maupras, » répondit-elle en redevenant pâle. Et que je vais être outragée ou assassinée dans 2 heures, si d'ici là, je n'ai pas réussi à vous inspirer quelque pitié. Mais j'y réussirai, s'écria-t-elle, en tombant à son tour à mes genoux. Vous n'êtes pas un de ces hommes-là. Vous êtes trop jeune pour être un monstre comme eux. Vous avez eu l'air de me plaindre. Vous me ferez évader, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, mon cher cœur ? Elle prenait mes mains et les baisait avec ardeur pour me fléchir. Je l'écoutais et je la regardais avec une stupidité peu faite pour la rassurer. Mon âme n'était guère accessible par elle-même à la générosité et à la compassion. Et dans ce moment, une passion plus violente que tout le reste faisait taire en moi ce qu'elle essayait d'y trouver. Je la dévorais des yeux sans rien comprendre à ses discours. Toute la question pour moi était de savoir si je lui avais plu ou si elle avait voulu se servir de moi pour la délivrer. « Je vois bien que vous avez peur, lui dis-je. Vous avez tort d'avoir peur de moi. Je ne vous ferai certainement pas de mal. » Vous êtes trop jolie pour que je songe à autre chose que vous caresser. Oui, mais vos oncles me tueront, s'écria-t-elle. Vous le savez bien. Est-il possible que vous vouliez me laisser tuer? Puisque je vous plais, sauvez-moi. Je vous aimerai après. Oh oui, après, après, lui répondis-je en riant d'un air niais et méfiant. Après que vous m'aurez fait pendre par les gens du roi, que je viens d'étriller si bien. Allons, prouvez-moi que vous m'aimez tout de suite. Je vous sauverai après, moi aussi. Je la poursuivais autour de la chambre, elle fuyait. Cependant, elle ne me témoignait pas de colère et me résistait avec des paroles douces. La malheureuse ménageait en moi son seul espoir et craignait de m'irriter. Oh, si j'avais pu comprendre ce que c'était qu'une femme comme elle et ce qu'était ma situation. Mais j'en étais incapable et je n'avais qu'une idée fixe, l'idée qu'un loup peut avoir en pareille occasion. Enfin, comme à toutes ses prières, je répondais toujours la même chose. « M'aimez-vous ? Ou vous moquez-vous ? » Elle vit à quelle brute elle avait affaire. Et prenant son parti, elle se retourna vers moi, jeta ses bras autour de mon cou, cacha son visage dans mon sein et me laissa baiser ses cheveux. Puis elle me repoussa doucement en me disant « Hé mon Dieu, ne vois-tu pas que je t'aime et que tu m'as plu dès le moment que je t'ai vue ? Mais ne comprends-tu pas que je hais tes oncles et que je ne vais appartenir qu'à toi ? »
« Oui, lui répondis-je obstinément, parce que vous avez dit, voilà un imbécile à qui je persuaderai tout ce que je voudrai en lui disant que je l'aime. Il le croira, et je le mènerai pendre. Voyons, il n'y a qu'un mot qui serve, si vous m'aimez. »
Elle me regardait d'un air d'angoisse, tandis que je cherchais à rencontrer ses lèvres, quand elle ne détournait pas la tête. Je tenais ses mains dans les miennes. Elle ne pouvait plus que reculer à l'instant de sa défaite. Tout à coup, sa figure pâle se colora. Elle se mit à sourire, et avec une expression de coquetterie angélique. « Et vous, dit-elle, m'aimez-vous ? » Dans ce moment, la victoire fut à elle. Je n'eus plus la force de vouloir ce que je désirais. Ma tête de Loup-Cervier fut bouleversée, ni plus, ni moins que celle d'un homme, et je crois que j'eus l'accent de la voix humaine en m'écriant pour la première fois de ma vie « Oh oui, je t'aime, oui, je t'aime !» « Eh bien, dit-elle d'un air fou, avec un ton caressant, « Aimons-nous et sauvons-nous. » « Oui, sauvons-nous, lui répondis-je. Je déteste cette maison et mes oncles. Il y a longtemps que je veux me sauver. Mais on me pendra, tu sais bien. »
« On ne te pendra pas, reprit-elle en riant. Mon prétendu est lieutenant général. »
« Ton prétendu ? » m'écriai-je, saisi d'un nouvel accès de jalousie, plus vif que le premier. « Tu vas te marier ? »
« Pourquoi non ? » répondit-elle en me regardant avec attention.
Je pâlis. Et je serrai les dents. En ce cas, me répondit-elle en me donnant une petite tape sur la joue, je vois que tu es jaloux. Mais c'est un singulier jaloux que celui qui veut posséder sa maîtresse à 10 heures pour la céder à minuit à 8 hommes ivres qui la lui rendront demain aussi sale que la boue des chemins.
Oh, tu as raison, m'écriai-je. Va-t'en, va-t'en. Je te défendrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Mais je succomberai sous le nombre et je périrai avec la pensée que tu leur restes.
Quelle horreur! Tu m'y fais penser.
Me voilà triste. Allons, pars.
Oh oui, mon ange, s'écria-t-elle en m'embrassant sur les joues avec effusion. Cette caresse, la première qu'une femme m'eût faite depuis mon enfance, me rappela, je ne sais comment, ni pourquoi, le dernier baiser de ma mère. Et au lieu de plaisir, elle me causa une tristesse profonde. Je me sentis les yeux pleins de larmes. Ma suppliante s'en aperçut et baisa mes larmes en répétant toujours.
« Sauve-moi, sauve-moi !»«
Et ton mariage ?» lui dis-je.
« Oh, écoute, jure-moi que tu ne te marieras pas avant que je meure.
Ce ne sera pas long, car mes oncles font bonne justice et courte justice, comme ils disent. »«
Est-ce que tu ne vas pas me suivre » reprit-elle.
« Te suivre ?»«
Non, pendu là-bas pour avoir fait le métier de bandit, pendu ici pour t'avoir fait évader, ce sera toujours bien la même chose. Et du moins... je n'aurai pas la honte de passer pour un délateur et d'être pendu en place publique.
« Je ne te laisserai pas ici, s'écria-t-elle. Tu sais y mourir. Viens avec moi. Tu ne risques rien. Crois en ma parole. Je réponds de toi devant Dieu. Tue-moi si je mens, mais partons vite.
Mon Dieu, je les entends chanter. Ils viennent. Ah, si tu ne veux pas me défendre, tue-moi tout de suite. »
Elle se jeta dans mes bras. L'amour et la jalousie gagnaient de plus en plus en moi.
J'eus en effet l'idée de la tuer, et j'eus la main sur mon couteau de chasse tout le temps que j'entendis du bruit et des voix dans le voisinage de la salle. C'étaient des cris de victoire. Je maudis le ciel de ne l'avoir pas donné à nos ennemis. Je pressai Edmé sur ma poitrine, et nous restâmes immobiles dans les bras l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'un nouveau coup de fusil annonça que le combat recommençait. Alors, je la serrai avec passion sur mon cœur. « Tu me rappelles, lui dis-je, une pauvre tourterelle qui, étant poursuivie par le Milan, vint d'un jour se jeter dans ma veste et se cacher jusque dans mon sein.
« Et tu ne l'as pas livrée au Milan, n'est-ce pas ? » reprit Edmé.
« Non, de par tous les diables ! Pas plus que je ne te livrerai, toi, le plus joli des oiseaux des bois, à ces méchants oiseaux de nuit qui te menacent.
« Mais comment ferons-nous ? » dit-elle en écoutant avec terreur la fusillade.
« Aisément, lui dis-je, suis-moi. »
Je pris un flambeau, et levant une trappe, je la fis descendre avec moi dans la cave. De là, nous gagnâmes un souterrain creusé dans le roc et qui servait autrefois à risquer un grand moyen de défense quand la garnison était plus considérable. On sortait dans la campagne par une extrémité opposée à la herse et on tombait sur les derrières des assiégeants qui se trouvaient pris entre deux feux. Mais il y avait longtemps que la garnison de la Roche-Maupras ne pouvait plus se diviser en deux corps. Et d'ailleurs, durant la nuit, il y aurait eu folie à se risquer hors de l'enceinte. Nous arrivâmes donc sans encombre à la sortie du souterrain. Mais au dernier moment, je fus saisie d'un accès de fureur. Je jetai ma torche par terre et m'appuyant contre la porte.
« Tu ne sortiras pas d'ici, » dis-je à la tremblante ennemie, « sans être à moi. »
Nous étions dans les ténèbres. Le bruit du combat ne venait plus jusqu'à nous. Avant qu'on vînt nous surprendre en ce lieu, nous avions mille fois le temps d'échapper. Tout m'enhardissait. Ennemie ne demandait plus que de mon caprice. Quand elle vit que les séductions de sa beauté ne pouvaient plus agir sur moi pour me porter à l'enthousiasme, elle cessa de m'implorer et fit quelques pas en arrière dans l'obscurité.
« Ouvre la porte, me dit-elle, et sors le premier, ou je me tue.
Car j'ai pris ton couteau de chasse au moment où tu l'oubliais sur le bord de la trappe, et pour retourner chez tes oncles, tu serais obligé de marcher dans mon sang. » L'énergie de sa voix m'effraya.
« Rendez ce couteau, lui dis-je, ou à tout risque je vous l'ôte de force.
« Crois-tu que j'ai peur de mourir ? » dit-elle avec calme. « Si j'avais tenu ce couteau là-bas, je ne me serais pas humilié devant toi. »«
Eh bien, malheur ! » m'écriai-je, « vous me trompez, vous ne m'aimez pas, partez, je vous méprise, je ne vous suivrai pas. »
En même temps, j'ouvris la porte. « Je ne veux pas partir sans vous, » dit-elle. « Et vous, vous ne voulez pas que nous partions sans que je sois déshonorée. Lequel de nous est le plus généreux ?»«
Vous êtes folle, » lui dis-je, « vous m'avez menti, et vous ne savez que faire pour me rendre imbécile. »
Mais vous ne sortirez pas d'ici sans jurer que votre mariage avec le lieutenant général ou avec tout autre ne se fera pas avant que vous ayez été ma maîtresse.
Votre maîtresse, dit-elle, y pensez-vous? Vous ne pouvez-vous, du moins, pour adoucir l'insolence, dire votre femme?
C'est ce que diraient tous mes oncles à ma place, parce qu'ils ne se soucieraient que de votre dot. Moi, je n'ai envie de rien d'autre que de votre beauté.
Jurez que vous serez à moi d'abord, et après, vous serez libre.
Je le jure. Si je me sens trop jaloux pour le souffrir, un homme n'a qu'une parole, je me ferai sauter la cervelle.
Je jure, dit Ennemie, de n'être à personne avant d'être à vous.
Ce n'est pas cela. Jurez d'être à moi avant d'être à qui que ce soit.
C'est la même chose, répondit-elle.
Je le jure.
Sur l'Évangile? Sur le nom du Christ? Sur le salut de votre âme? Sur le cercueil de votre mère?
Sur l'Évangile? Sur le nom du Christ, sur le salut de mon âme, sur le cercueil de ma mère.
C'est bon.
Un instant, reprit-elle. Vous allez jurer que ma promesse et son exécution resteront un secret entre nous, que mon père ne le saura jamais, ni personne qui puisse le lui redire, ni qui que ce soit au monde. Qu'ai-je besoin qu'on le sache pourvu que cela soit? Elle me fit répéter la formule du serment et nous nous élançâmes dehors, les mains unies en signe de foi mutuelle. Là, notre fuite devenait périlleuse. Ennemie craignait presque autant les assiégeants que les assiégés. Nous eûmes le bonheur de n'en rencontrer aucun. Mais il n'était pas facile d'aller vite. Le temps était si sombre que nous nous heurtions contre tous les arbres et la terre si glissante que nous ne pouvions nous soutenir. Un bruit attendu nous fit tressaillir. Mais aussitôt, au son des chaînes qu'il traînait aux pieds, je reconnus le cheval de mon grand-père, animal extraordinairement vieux, mais toujours vigoureux et ardent. C'était le même qui m'avait amené 10 ans auparavant à la Roche-Mauprat. Il n'avait qu'une corde autour du cou pour toute bride. Je la lui passai dans la bouche avec un nœud coulant. Je jetai ma veste sur sa croupe, j'y plaçai ma fugitive, je détachai les entraves, je sautai sur l'animal et, le talonnant avec fureur, je lui fis prendre le galop à tout hasard. Heureusement pour nous qu'il connaissait les chemins mieux que moi et n'avait pas besoin d'y voir pour en suivre les détours sans se heurter aux arbres. Cependant, il glissait souvent, et pour se retenir, il nous donnait des secousses qui nous eussent mille fois désarçonnés, équipés comme nous l'étions, si nous n'eussions été entre la vie et la mort. Dans de semblables situations, les entreprises désespérées sont les meilleures, et Dieu protège ceux que les hommes poursuivent. Nous semblions n'avoir plus rien à craindre, lorsque tout à coup, le cheval heurta une souche. Son pied se prit dans une racine à fleur de terre, et il s'abattit. Avant que nous fussions relevés, il avait pris la fuite dans les ténèbres, et j'entendais ses pas rapides s'éloigner de plus en plus. J'avais reçu Ennemie dans mes bras, elle n'eut aucun mal. Mais je pris une entorse si grave qu'il me fut impossible de faire un pas. Ennemie crut que j'avais la jambe cassée. Je le croyais un peu moi-même, tant je souffrais. Mais je ne pensais bientôt plus ni à la souffrance ni à l'inquiétude. La tendre sollicitude que me témoignait Ennemie me fit tout oublier. En vain, je la pressais de continuer sa route sans moi. Elle pouvait maintenant s'échapper. Nous avions fait beaucoup de chemin. Le jour ne tarderait pas à paraître. Elle trouverait des habitations et partout on la protégerait contre les Mauprats. Je ne te quitterai pas, répondit-elle avec obstination. Tu t'es dévoué à moi, je me dévoue à toi de même. Nous nous sauverons tous deux ou nous mourrons ensemble.
Je ne me trompe pas, m'écriai-je. C'est une lumière que j'aperçois entre ces branches.
Il y a là une habitation. Edmé, allez y frapper. Vous m'y laisserez sans inquiétude et vous trouverez un guide pour vous conduire chez vous.
Quoi qu'il arrive, je ne vous quitterai pas, dit-elle, mais je vais voir si l'on peut vous secourir.
Non, lui dis-je, je ne vous laisserai pas frapper seule à cette porte. Cette lumière, au milieu de la nuit, dans une maison située au fond des bois, peut cacher quelque embûche.
Je me traînai jusqu'à la porte. Elle était froide comme du métal. Les murs étaient couverts de lierre.
« Qui est là ? » cria-t-on du dedans avant que nous eussions frappé.
« Nous sommes sauvés, s'écria Edmé. C'est la voix de Patience. »
« Nous sommes perdus, lui dis-je. Nous sommes ennemis mortels, lui et moi. »«
Ne craignez rien, dit-elle. Suivez-moi. C'est Dieu qui nous amène ici. »
« Oui, c'est Dieu qui t'amène ici, fille du ciel, étoile du matin, dit Patience en ouvrant la porte. Et quiconque te suit, soit le bienvenu à la tour Gazou. »
Nous pénétrâmes sous une voûte surbaissée, au milieu de laquelle pendait une lampe de fer. À la clarté de ce luminaire lugubre et des maigres broussailles qui flambaient dans l'âtre, nous vîmes avec surprise que la tour Gazot était honorée d'une compagnie inusitée. D'un côté, la figure pâle et grave d'un homme en habit ecclésiastique recevait le reflet de la flamme. De l'autre côté, un chapeau à grands bords ombrageait un cône olivâtre terminé par une maigre barbe. Et le mur recevait la silhouette d'un nez tellement effilé qu'il n'y avait rien au monde qui pût lui être comparé, si ce n'est une longue rapière posée en travers sur les genoux du personnage. Et la face d'un petit chien qu'on eût prise, à sa forme pointue, pour celle d'un rat gigantesque, si bien qu'il régnait une harmonie mystérieuse entre ces trois pointes acérées, le nez de Don Marcas, le museau de son chien et la lame de son épée. Il se leva lentement et porta la main à son chapeau. Ainsi fit le curé janséniste. Le chien allongea la tête entre les jambes de son maître et mua comme lui, montra les dents et coucha les oreilles sans aboyer.
« Chut, blaireau !» lui dit Marcas.